Taïb. Donc, on se rejoint une fois de plus aujourd'hui pour un nouveau cours. Un cours de Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, doucement mais sûrement, bi'idhnillahu ta'ala, on avance et on continue dans notre acheminement de l'apprentissage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette matière qui est la plus noble des matières scientifiques religieuses. Cette matière qui est la plus noble des matières que nous étudions. C'est pour cela d'ailleurs que c'est la matière principale à notre institut. Notre institut est votre institut. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Comme vous le savez, le programme prévu concernant le tawhid, c'est un programme, inshallah ta'ala, qui sera complet et très instructif, composé de nombreux ouvrages composés de nombreux ouvrages, les ouvrages des gens de la Sunna en la matière, mais composés principalement du meilleur ouvrage qui existe, le Coran. Le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Concernant notre programme dans le Tawhid, comme vous le savez, notre premier ouvrage, Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Un petit condensé, un petit épître qui fournit et qui propose, transmet des bonnes bases dès le début, comme vous pouvez le constater. Donc, dans nos cours précédents, on était entré dans les actes annulatoires de l'islam, les actes annulatoires de l'islam. Donc, on a déjà expliqué hein, d'où l'importance des actes annulatoires de l'islam et pourquoi au début, dans l'apprentissage du débutant en science, الطلب العلم مبتدئ المبتدئ le débutant. C'est parce que ce sont des fondements importants et les déviances dans ces questions religieuses, ces actes annulatoires sont extrêmement propagés dans la communauté. C'est ce qui fait que Et c'est très dangereux parce que ça mène au polythéisme et à la mécréance. Donc c'est un des facteurs, une des raisons qui fait que dès le début, on doit faire très attention. On doit plutôt, dès le début, prêter attention et étudier ces choses-là. Combien de musulmans tombent dans les actes annulatoires de là où ils ne s'y attendent pas, ils ne savent même pas qu'ils sont tombés dans les actes annulatoires. Est-ce que vous percevez la gravité? C'est très grave. Donc on était arrivé, concernant les actes annulatoires de l'islam, de notre Cheikh el-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, on était arrivé au sixième acte annulatoire, et sadis, man istuhzi'a ou istahza bi shay'in min dini rasoul ou thawab ou iqab kafara. Wa dalil qawlu ta'ala qul أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Premier acte annulatoire, se moquer de quelque chose de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de sa rétribution, de son châtiment, cela est de la mécréance. La preuve à cela, la parole d'Allah au Ta'ala, Sourate At-Tawba, versets 64 et 65. At-Tawba, le repentir. Traduction rapprochée du sens. Est-ce d'Allah, de ses versets, de ses messagers, que vous vous moquiez, dont vous vous moquez? La ta'tadiru, ne vous excusez pas. Vous avez, qad kafartum, vous avez bel et bien mécru, ba'da imanikum, après avoir cru. Traduction rapprochée hein, du sens du verset. Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, a dit dans son livre immense, très profitable, le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, ce livre dont les savants disent en la matière, on n'a pas vu un livre depuis Kitab Tawhid, un livre de cette importance. Et notre imam, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a intitulé un chapitre, le chapitre de se moquer de quoi que ce soit où il y a la mention d'Allah, du Coran et de son messager. Afwan. Et le Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, a dit dans son explication de Kitab al-Tawhid qui se nomme Fath al-Majid, il a dit à propos de ceux qui se moquent, ils ont bel et bien mécru, cela est de la mécréance. ثم ذكر الشيخ الإمام هذه الآية الكريمة وعقبها بقوله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقطادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال الرجل في غزوة تبوك ما رأينا مثال طيب. Ensuite, les savants et plus particulièrement excusez-moi, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans son livre, le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, dans son chapitre, il mentionne le récit, l'histoire qui s'est réellement passée avec un groupe de personnes qui étaient en train de se moquer du prophète et des compagnons, leur récitation, etc. Et il y avait une personne qui était présente et qui a dit « Je vais me rendre auprès, il s'appelait Aouf, auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et je vais l'en informer. » Alors on nous dit en arabe ici « Fawajad al-Qur'ana qad sabaqa » lorsqu'il est parti informer le messager d'Allah sur les agissements de ces gens qui se moquaient des compagnons et du prophète, on nous dit ce compagnon avait été précédé par la révélation du Coran. Le prophète, il était déjà au courant, alayhi salatu wassalam. La révélation, elle était déjà tombée au sujet de ce récit de ceux qui se moquent. Puis la personne qui se moquait, qui avait participé, pas le compagnon, hein, qui s'était désavoué, mais l'autre, était parti voir le messager d'Allah, alayhi salam, à la suite, en lui disant, nous ne faisions que jouer et nous amuser, plaisanter. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, de lui réciter le verset tout fraîchement descendu à l'occasion, à cette occasion. Est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager, que vous vous moquez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Hein. Traduction, rapprochez, barakallahu fikum. Faqawlihim, innama kunna nakhoud wa nal'ab. Lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne faisions que railler, jouer, plaisanter. On n'avait pas pour but réel de se moquer. On était sur le chemin comme ça et on plaisantait. وَمَعَ ذَلِكَ كَفَّرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ قِبَلْ ذَلِكَ مِنْ قَبْلَ ذَلِكَ pardon, مُؤْمِنِينَ. Et malgré cela, Allah Ta'ala les a rendus mécréants. Malgré que précédemment, avant cela, juste avant ça, ils étaient croyants. Donc, ce qu'il faut retenir, parmi les fawaïd qu'il faut retenir, on n'a pas dit la faïda, mais il y a une faïda qu'il faut retenir ici. On va vous en donner deux, allez. On va vous en donner deux principales. Alors, j'ai perdu ma page. Hein. Une seconde. Kaffarahum. Naham. Kaffarahum Allahu Jalla wa Ala. Voilà, on en est ici. Alors, ces deux fawaïd. La première, c'est qu'on doit faire extrêmement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il peut y avoir des répercussions irréversibles. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et vous savez, dans la parure de l'étudiant, les savants disent que l'étudiant en science, et d'ailleurs c'est propre aux musulmans même, hein, il doit réfléchir et prendre du recul avant de parler. Bon, comme disent les kofars, hein, tourne ta langue avant de parler. Donc nous, c'est un exemple, c'est une parabole. Hein. Il n'y a pas de polythéisme dans ce qu'on dit nous. Hein. Peut-être qu'eux, il y a une histoire de polythéisme. Tourne ta langue sept fois, je ne sais pas, il y a peut-être un truc de polythéisme. Mais nous, on vous a apporté cette parabole et on n'a pas dit tourne ta langue sept fois. On a dit tiens ta langue avant de tourne ta langue hein, avant de dire n'importe quoi ou des choses qui seront irréparables. La deuxième faïda, c'est qu'il faut faire attention de ne pas s'empresser. Il ne faut pas s'empresser dans les choses. Il faut faire attention et être conscient que les choses vont très vite. Ça va très vite. Naam, la réflexion est primordiale, importante. Ça va très vite. C'est pour ça que les savants disent, et ça c'est reconnu, hein, les savants disent, c'est pour ça qu'une personne, plus elle est âgée, bon, c'est en général, hein, il y a des gens qui, il y a toujours des cas spéciaux, hein, mais en général, plus une personne est âgée, plus elle a du recul par rapport aux moins âgés. Vous savez que pour être, on a déjà parlé, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, on a parlé de la science ilmul qada. Ilmul qada, c'est la science du juge, des juges, dans les tribunaux musulmans, etc. Vous savez que pour être juge, il y a un âge minimum. Alors, pour être juge, les savants disent, pour être juge tout simple, hein, juge dans les trucs de commerce, tout ça. Bon là, il ne faut pas avoir un âge assez avancé. Si je me souviens bien, c'était à peu près 25 ans. Mais pour être juge à la Cour suprême, on parle de tribunal musulman en Arabie ou autre, hein, pour être juge à la Cour suprême, pour être juge là où ils vont ordonner des exécutions, vraiment faire des jugements très très graves, tout ça, c'est pas moins de 40-45 ans. Et concernant les savants, vous connaissez leur âge, hein. Concernant les savants, les grands savants, vous connaissez leur âge. On parle en général. Celui qui est un savant et qui a 40 ans, c'est une exception. Celui qui a 40 ans et qui est un savant, c'est une exception. Voyez ? Donc le recul, il est propre à l'âge également. Et malheureusement, dans beaucoup de domaines, dans la communauté, on a des gens qui n'ont pas l'âge requis. Franchement, wallah, et ça se voit. Pas la maturité, pas le... Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est pour ça qu'on en est là. Pour notre propre personne, hein, je vous parle de moi, en ayant analysé tout ce qui s'est passé dans la Jamaha, les problèmes, ce qui continue à se passer, des gens qui ont un peu le monopole, ou qui ont le leadership, ou même la liste des grands prêcheurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous assure, avec le recul et les analyses, avec le Kitab wa Sunna, le peu de connaissances que nous avons, la plupart n'ont pas eu le recul qu'il fallait quand il fallait. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et ça continue, hein. Ça continue, il y en a encore à qui on a donné le micro qui n'ont pas assez de recul et qui sont encore en train de créer des dégâts. Ils sont en train de faire des dégâts et ces dégâts, c'est pas malheureux pour les prêcheurs ou pour les, parce que le prêcheur il continue tranquillement. Hein. C'est malheureux pour les jeunes, pour nos jeunes, c'est malheureux pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent, pour les convertis qui vont se dire « mais c'est quoi ?» On m'a dit, c'est la religion d'amour. Ils sont là à parler des défauts des autres, à se dénigrer les uns les autres. Voilà, c'est ça le problème. Et bien ça, c'est dû à un manque de recul. Manque d'expérience, manque de recul, manque de connaissance. Manque de connaissance. Je vous donne juste un petit exemple avant de continuer dans notre cours de Tawhid. Quand il t'a fallu une semaine pour mettre en garde contre quelqu'un qui fait da'wah depuis des années, alors qu'il y a des gens, alors que plutôt les grands savants, ils attendent 8 ans, 10 ans, en conseillant et en reconseillant. Aujourd'hui, des gens inexpérimentés qui ne connaissent pas les règles, une semaine de conflit, ils ont déjà mis en garde contre toi. Et ils vont dire, on l'a conseillé, on a fait... Cheikh Farkous avait attendu 11 ans, je crois, sur un homme, je ne sais plus c'est qui, oui. Oui. Cheikh Raber, il a attendu plus de 10 ans sur des gens. Nous, une semaine, ça y est, dans la poubelle, on n'en veut plus. Hein. Vous inquiétez pas, on va le remplacer. Hein. On va le remplacer par qui ? Allahu musta'an. Tayyib. Donc, c'était juste pour essayer de vraiment vous inculquer, puisqu'on est dedans là, une caractéristique, une parure très importante qui est le recul. Les gens qui ne prennent pas de recul, c'est valable dans tout, hein, attention, hein, c'est valable dans tout, hein, dans une décision, dans ta vie mondaine, dans ton travail, dans la dunya, dans l'ilm, dans le din. Moins tu as du recul et plus tu auras de risques de te tromper, de prendre un mauvais chemin. Pourquoi on dit « demande aux gens du rappel » ? Pourquoi on dit « demande aux gens de confiance » ? Pourquoi on dit « demande aux gens de science » ? Pourquoi on dit « demande aux étudiants de confiance » ? C'est justement parce que nous, souvent, on n'a pas assez de recul. Et si on écoute notre nifs, eh bien, notre nifs, il ne va pas nous... Le nifs, il n'a pas de recul. Parce que les savants disent « un nifs amarabissou ». Ton nifs, il t'appelle au mal. Donc, il n'a pas de recul. S'il a du recul, c'est pour t'empêcher de faire le bien. Wallahu al-musta'an. Donc, quel est le rapport entre le recul et les actes annulatoires de l'islam ? Eh bien, c'est que tu dois faire très attention. On doit faire très attention à ce qu'on dit. Très, très attention. Parce que chaque parole, Allah Ta'ala, il nous a éduqués dans ce sens. Dans le sens où chaque parole, elle est notée. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as des anges, un à droite, un à gauche, qui notent ? À droite, chaque parole de bien, à gauche, chaque mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque chose que tu prononces, tu seras jugé dessus. Alors, je vais vous donner une faïda à ce propos, concernant les scribes. Cheikh Abdelazak al-Badr, dans un de ses cours, il explique, il dit, les scribes, ils notent plusieurs formes de choses. Ils notent le bien et le mal. Dans ces catégories-là, il y a les choses qui te seront utiles, il y a les choses qui te seront inutiles. Il y a plusieurs, en fait, ce que je voudrais vous dire, Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit dans les paroles qu'on prononce, il y a plusieurs formes. Il y a les paroles qui sont utiles, ça va être utile, Yawm al-Qiyamah. Il y a les paroles qui vont être contre toi, Yawm al-Qiyamah. Et il y a les paroles qui ne servent à rien du tout, qui sont inutiles. Ni elles sont bien pour toi, ni elles sont mauvaises pour toi. C'est inutile, ça ne sert à rien. Donc une personne qui est bien avisée, qui connaît et qui veut pratiquer, en gros une personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il fait attention à que tout ce qu'il dit, ça soit pour lui positif. Même les trucs qui ne servent à rien, les paroles qui ne servent à rien, il n'en veut pas. Il fait attention, il réfléchit. Est-ce que ce que je vais dire, c'est bon pour moi, Yawm al-Qiyamah ? Apprends le silence comme tu apprends à parler. Naham, marouf. Naham, barakallahu fi. Naham. Alors, Cheikh Al-Islam Mohamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah nous dit dans son ouvrage Kashfa Shubuhat, Dissipation des ambiguïtés. C'est un ouvrage que nous allons étudier après le livre de l'unicité, Kashfa Shubuhat. Ce sont plein d'ambiguïtés propagées par les associateurs. Et Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, il répond, il mentionne les ambiguïtés et il y répond. Il réplique. Donc on nous dit ici, dans notre explication de Al-Wajibat al-Mutahattimat, que notre Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, dans son ouvrage Kashfa Shubuhat, il nous dit, il te faudra comprendre ces deux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cet acte annulatoire, ne vous excusez pas, vous avez bien, bel et bien mécru après avoir cru. On nous dit, par rapport à ce verset, si il est confirmé, il se confirme que certains compagnons qui ont combattu dans l'expédition contre les Romains avec le messager d'Allah, ils ont été déclarés mécréants par la cause d'une parole qu'ils ont dit juste en voulant s'amuser, en plaisantant. Alors imaginez celui qui parle par mécréance ou qui œuvre par peur ou alors par manque de biens mondains, d'argent ou de notoriété. Il fait ça, hein, se moque de la religion pour toutes ses causes. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Vous imaginez? Il y a des compagnons à l'époque, ils ont été sortis de l'islam. Alors imaginez-vous aujourd'hui. Des gens, ils n'ont ni fait la bataille, ni... Eux, ils se moquent, c'est vraiment pour se moquer. Les compagnons, ils ont dit, non, on plaisantait. Eux, ils ne plaisantent même pas. On est sérieux. Parce que, alors là, on va vous apporter une autre faïda très, très, très importante. Normalement, elle est dans le titre, hein, dans la parole de l'auteur. Ici, je ne l'ai pas vue, je n'ai peut-être pas fait attention, je ne sais pas. Mais normalement, les savants disent, concernant cet acte annulatoire, je me souviens, Cheikh Al-Fawzan, il dit concernant cet acte annulatoire, il dit, celui qui se moque de quelque chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante. Qu'il soit sérieux quand il se moque ou qu'il plaisante quand il se moque. Alors j'espère que vous avez compris la différence entre les deux parce que ça peut porter à confusion. Comment on peut être sérieux et ne pas tout en plaisantant et plaisantant en n'étant pas sérieux. Il y a une forme de plaisanterie qui n'est pas la plaisanterie dans le sens se moquer, se railler. Ce qu'on appelle la plaisanterie qui est sérieuse. On le pense, on n'est pas en train de rigoler, c'est sérieux. Et on a l'autre forme qui est, là on se marre, c'est pour rigoler. C'est pour ça que les savants ils nous disent que tu es sérieux ou que tu n'es pas sérieux. Si tu te moques de la religion, tu sors de l'islam. Wallahu a'lam. On nous dit à la suite de ça, Kamen istahza bi amrain bil ma'ruf wa nahin. Alors on nous dit par exemple, Cheikh Al-Othami donne un exemple. Il nous dit, comme celui qui se moque de ceux qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Comme se moquer, ou alors, comme se moquer du prieur par rapport à sa prière. Comme se moquer de celui qui se rase la barbe. Comme de se moquer celui qui laisse la barbe. Mais de se moquer de lui, du fait qu'il laisse la barbe légiférer. C'est-à-dire qu'il le blâme, il se moque. il dénigre ouvertement. On nous dit tout ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Il fait sortir de la religion. Alors, il me semble qu'on vous a déjà... On vous a déjà mentionné la différence dans un cours précédent. On vous a mentionné, et ça répondra à la question de notre frère, Inch'Allah. Dans un cours précédent, il me semble qu'on vous a déjà mentionné qu'il y a une différence entre se moquer du signe légiféré, de se moquer d'une personne par rapport au signe légiféré, ou de se moquer de la personne elle-même. Si on se moque d'une personne, là, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est péché. La personne, elle prend des péchés. Comme par exemple, tu te moques de quelqu'un qui lit le Coran, non, ça ne fait pas sortir de l'islam. Ou si tu te moques d'un prieur, de sa façon de faire la prière, si tu te moques de lui-même, non. Wallahu a'lam. Mais si tu te moques de la prière pour la prière, de la barbe pour la barbe, etc., là, ça fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Justement, je crois que j'ai mal compris le hadith, car j'ai cru comprendre que le compagnon, c'est... Justement, je crois que j'ai mal compris le hadith, car j'ai cru comprendre que le compagnon s'est moqué des gens, pas du Coran. Est-ce que se moquer d'une personne qui récite le Coran ayant du mal à prononcer, si on se moque de la personne, si on se moque de la personne, c'est péché. C'est pas de la mécréance. Si on se moque du rite en lui-même, là, c'est de la mécréance. Je répète ce que disent les savants. Nous répétons ce que disent nos grands savants. Vous pouvez retourner à Cheikh Al-Fawzan dans son explication des dix actes annulatoires, et c'est connu chez les savants. Les savants disent, si on se moque du rite de l'islam, la barbe, n'importe quoi étant partie intégrante de l'islam, c'est de la mécréance. Si on se moque d'une personne, c'est pas de la mécréance. Tayyib. Alors, donnez-moi deux petites secondes. Désolé les frères, j'ai pas ouvert. Désolé, c'est bon. On va aller comme ça, on va faire le gâteau. Ah, d'accord. N'oubliez pas d'enregistrer pour ceux qui peuvent enregistrer. Là. طيب. فمن سمع الآية الله يكفر بها ويستهزئ بها وهو جالس معهم. Alors on nous dit, celui qui écoute un verset d'Allah où les gens sont en train de mécroire ou de se moquer des versets d'Allah, alors qu'il est assis en leur compagnie, alors il est considéré comme eux. Et le péché, la mécréance, et cela le fera, il a le péché, la mécréance, et cela le fera sortir de l'islam. Il sort de l'islam. Ça, c'est la parole des savants. Non. Voilà. Petit problème avec les l'ordinateur. Allah musta'an. Tayyib. Alors, وقوله أو ثوابه أو عقابه أي من استهزأ بشيء مما جاء به الدين. Alors, on nous dit également, et ça c'est dans le Metn, que celui qui se moque également de la rétribution ou du châtiment, concernant la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il se sera moqué ou qui se moque de quoi que ce soit, de ce qui est parvenu dans la religion. Alors ici, plus particulièrement ici, dans la récompense, la rétribution ou le châtiment. Comme c'est le cas de certains ignorants, on nous dit ici. Hein. Comme c'est le cas de certains ignorants, alors ceci est une immense mécréance. Alors, regardez ce que nous dit le cheikh ici. Nous, par la grâce d'Allah, on a déjà étudié ça au préalable, avant d'entrer, avant de commencer les 10 actes annulatoires. On a étudié tout ce qui concerne la mécréance, enfin tout. On a étudié une bonne partie, on a fait un bon exposé sur le fait de rendre quelqu'un mécréant. Regardez ce que nous dit notre cheikh ici. Point important, nous dit le cheikh. Tout ce que nous voyons comme mention de la mécréance, ou faire des actes qui prêtent à mécréance ou à sortir de l'islam, tout cela, c'est pour éclaircir le jugement et pour mettre en garde contre cela. Comme quoi, c'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Mais cela ne signifie pas que l'on attribue la mécréance à une personne individuelle au choix en la désignant comme mécréant. On espère que tout le monde a compris ça. Normalement, avec les cours qu'on a fait avant, alors ça, c'est. On a fait plusieurs cours en expliquant que. Les actes annulatoires, on va parler du jugement par rapport à l'acte annulatoire. Celui qui se moque, c'est de la mécréance, il sort de l'islam. Mais ça, ça reste général. Ça reste général. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a fait un acte annulatoire, à tous les coups, on peut juger « Ah ben toi, tu es un mécréant, ça y est, tu sors de l'islam. » Ça, ce n'est pas notre rôle à nous. Ce n'est pas notre rôle à nous. Il faut exposer son cas avec toutes les conditions. Peut-être c'est un fou. Peut-être c'est un fou. Et vous ne le savez pas. Je vais vous donner un exemple. Et surtout, il ne faut pas... Je sais que c'est un exemple un peu qui peut faire rire, mais surtout, il ne faut pas rire de cet exemple. Vous avez quelqu'un qui est, par exemple, vous ne savez pas qui il est atteint mentalement. En apparence, ça ne se voit pas. Il a une kamis, c'est un frère, il marche comme ça, il est atteint mentalement, mais ça ne se voit pas extérieurement. Il y a une sœur qui passe, ou je ne sais pas, un frère, djelbeb ou kamis, et il commence à rigoler. En réalité, il n'est pas en train de se moquer, il rigole, c'est un rire de quelqu'un qui est atteint mentalement. Il fait par exemple, c'est un exemple. Hein. Et comme le dit le cheikh ici, certains ignorants, ils ne connaissent pas les jugements, ils vont dire « Oh, il a fait un acte annulatoire, regarde, il s'est moqué. Il sort de l'islam. » Wallahu al-musta'an. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu t'es trompé, tu as porté un jugement. On a expliqué qu'il y avait des conditions, qu'il y avait des empêchements pour la mécréance. On a bien insisté sur ça, on a fait des cours, hein. Très important au début, juste avant d'entrer dans les actes annulatoires. Pourquoi? Parce que c'est la méthodologie des gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils ne portent pas un jugement sur une personne par rapport à une situation. Ils disent, ouais, toi, tu es un adorateur de je ne sais pas quoi. Ouais, toi, tu es un ceci. Ouais, toi, tu es un cela. Toi, tu sors de l'islam. Toi. Et pourtant, on voit ça, mais quotidiennement, chez les ignorants des réseaux sociaux. Je crois qu'on va les appeler comme ça maintenant. Les ignorants des réseaux sociaux. Ils portent des jugements normaux comme ça. Normal. Wallahu al-musta'an. Ils ont vraiment pas respecté la religion. Ils ont outrepassé la religion. Ils n'ont pas respecté la religion. C'est adib. Et adib, le mot est faible. On dira en arabe adib al-udjeb. C'est encore plus. Fois deux étonnant. Wallahu al-musta'an. Alors le cheikh est en train de nous dire attention, hein, rendre les autres mécréants comme ça pour rien, c'est une affaire très immense et c'est très 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 dangereux. Regardez, plutôt écoutez, regardez ce que nous dit notre cheikh. Il nous dit, il faut absolument, dans ce genre d'exemple, de situation, que si une personne a commis un acte annulatoire ou une situation similaire, il faut aller confirmer cela et revenir aux savants. Al-muhaqqiqin. Attention, les savants, hein, qui sont les savants qui gèrent ces choses-là, sont capables d'émettre les jugements. Alors le cheikh ici nous dit, attention, pour ceux qui outrepassent ce domaine, il y a une menace très très lourde. Le cheikh nous dit, il y a une menace très très lourde pour ceux qui outrepassent cette chose-là. Et d'ailleurs, le cheikh ici, il nous apporte un hadith, il nous argumente par un hadith, qui est mentionné dans les deux recueils authentiques, Sahihain, Bukhari wa Muslim. Il nous dit, An Abi Dhar, radiallahu anhu, Abi Dhar, qu'Allah l'agré a dit, Annahu samiha Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a yaqul. Abi Dhar a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui mentionne un homme par la mécréance, qui attribue la mécréance à un homme, ou qui dit « Ô ennemi d'Allah », alors que ce n'est pas le cas, cela revient sur lui. Alors, excusez-moi, hein, il y avait plein de questions d'étudiantes que je n'avais pas vues. Est-ce qu'on peut se moquer? Non. Les gens qui se moquent des gants pour la femme. Car j'ai déjà eu faire de l'habillement ça ou de l'habillement du niqab. Alors ceux qui se moquent de l'habillement de la femme musulmane, s'ils se moquent, comme on a dit, hein, c'est la règle, s'ils se moquent de la femme. Oh, regarde, elle a des gants, un exemple, hein. Alors, là, c'est un péché. Mais si la personne, elle se moque des gants ou du djelbeb ou du sitar, du niqab, parce que c'est la législation d'Allah, là, elle sort de l'islam. C'est ça l'histoire. Taïeb. Alors, il y avait, je crois, d'autres questions, mais comme je vais être obligé de fermer le. Voilà, parce qu'il y a trop de. Je vais fermer le. Parce qu'il y a trop de cling-cling. Taïb. Alors, salam alaykoum, ostaz. Donc, une personne pense que le voile de la femme n'est ni djelbeb, ni niqab, ni sitar, mais qui pense simplement qu'il faut des habits qui ne montrent pas des formes. Il est considéré comme la mécréance et qu'on peut remettre cela sur le manque de connaissances. Je me suis mal exprimé. Non, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de la mécréance. Si une personne pense que le niqab, les gants, le djelbeb, le sitar, ça ne fait pas partie du libès de la femme, ça, on dira que c'est de l'ignorance et... On dira que c'est de l'ignorance, parce que si cette personne pense que le libès de la femme, c'est juste le libès légiféré, mais pas forcément le... Là, non, on ne dit pas que cette personne est mécréante. On dira qu'il y a de l'ignorance. Il y a de l'ignorance. On ne dit pas qu'elle est mécréante. Le messager d'Allah a dit, celui qui traite son frère de mécréant ou d'ennemi d'Allah alors qu'il ne l'est pas, son accusation se retourne contre lui. Taïb, naam. Il y a encore quatre, je crois, questions. J'ai une dernière question. Austès, s'il vous plaît, traiter quelqu'un d'égaré demande-t-il aussi des conditions? Car je l'entends beaucoup de la part de certaines personnes. Oui, pour traiter quelqu'un d'égaré, il faut des... Wallahu musta'an. Par exemple, on m'a déjà dit vol de mort, des choses comme ça, Allahu musta'an. Non! Non, ça! Scream, vol de mort, tout ça, là. Ça, non, ça peut rentrer dans l'acte annulatoire. Ça peut rentrer. Alors moi, je dis Allahu alam, c'est entre les deux. Il faut voir vraiment la niya dans le cœur de la personne. Wa fikum barakallah. Mais Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. Ne vous inquiétez pas, votre Seigneur et votre protecteur est garant. Votre Seigneur et votre protecteur est garant. J'ai une dernière question, hostesse. Vous pouvez traiter quelqu'un d'égaré, demande-t-il aussi des conditions? Oui, il y a des conditions pour traiter quelqu'un d'égaré, et c'est une preuve de plus que la plupart des gens, ben, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Voilà. Et pour revenir à notre phrase sur laquelle j'insiste comme ça, tous les élèves retiendront, il faut que ça soit ancré chez vous, il faut que ça soit ilmi, il faut que ça soit ilmi, il faut que ça soit scientifique. Quand on traite quelqu'un d'égaré comme ça, sans preuve, sans avoir respecté les règles, c'est par ilmi. C'est par ilmi. Vous voyez? Il faut que tout soit ilmi. Si on ne vous apporte pas du ilmi, ou kafar pour le djabab, Allahumusta'an. J'ai honte de répéter tout ça. Allahumusta'an. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Au-dessus, le kitab wa sunnah, il est au-dessus des êtres humains. Le kitab wa sunnah, c'est une révélation d'Allah, le Très-Haut, le Magnifique, le Sublime. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Magnifique, le Sublime, le Grand, l'Immense, le Vénéré, c'est lui qui a légiféré pour sa créature. Sa noble créature, la femme, l'habit de piété. L'habit de piété. Et on sait que l'habit de piété, c'est le meilleur habit. parmi tous les habits qui puissent exister, l'habit de piété, c'est le meilleur habit. La femme, lorsqu'elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est heureuse, épanouie, et son cœur, il est ouvert. Et toute attaque ou moquerie ne fait que rebondir. Ne fait que rebondir. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala, il lui met la conviction et la douceur de la foi dans son cœur. Sinon, si ce n'est pas la douceur de la foi, si ce n'est pas la piété, si ce n'est pas l'agrément, la recherche pour se rapprocher de son Seigneur, qui pourrait tenir ne serait-ce qu'une minute avec un djelbeb et un niqab? En étant épanouie, heureuse, fière, et on dit aux mécréants, une parole propagée chez les salafs, les gens de la sunna, « Moutou bi-ghayrikoum, mourez de votre rage. » Quelle rage pour le mécréant dévergondé ou le musulman pervers de voir la femme, créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, noble créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi, ô prophète, قل دي لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Traduction rapprochée du sens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné, commandé pour le bienfait de la femme musulmane de se parer du vêtement de la piété lorsqu'il a demandé au prophète, à ses femmes, à ses filles et aux femmes des croyants de faire tomber sur elles leur djelbeb. Et il y a eu divergence entre les savants sur ce verset. Est-ce que ce verset, il veut dire laisse tomber le voile, ça veut dire tout, visage, main, tout, ou juste tout le corps sauf les mains et le visage, ou le visage et les mains compris? Certains ont compris du verset telle chose, d'autres ont compris du verset autre chose. Les mécréants, les pervers, les dévergondés, ils ont choisi le camp du shaitan. Et le shaitan est le pire des pervers qui pervertit les gens, il pervertit la fitra. Et ceux qui ont suivi le shaitan, dont la fitra n'existe plus, comme on dit, après la pudeur, il n'y a plus rien. Après la pudeur, Il n'y a plus rien si tu as outrepassé la pudeur. Tout est permis. Tout est permis. Alors, ils mettent la pression sur les croyantes pour leur faire baisser les bras. Mais Allah Ta'ala a prévenu, c'est valable pour les hommes et c'est valable pour les femmes, les croyants, les croyantes, que ceux qui seront raccrochés et accrochés à Allah Ta'ala, le shaitan ne pourra pas les toucher, donc ses alliés au shaitan non plus ne pourra les toucher. Naam. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, sur la divergence? Il y a le verset que nous venons de mentionner sur l'obligation de l'habit de piété pour la femme, se couvrir. Dans le verset, Allah Ta'ala dit qu'elle fasse tomber leur voile, qu'elle fasse tomber leur voile sur elle, poitrine, sur elle. Il y a des savants qui ont expliqué, qui ont pris comme preuve ce verset, faire tomber leur voile sur elle. Ça veut dire tout le corps, même le visage, même les mains. Et il y a d'autres savants, mais très peu. Là, c'est faible. Là, c'est faible. La divergence, elle est faible. Très peu. Voire, c'est la majorité qui dit qu'on doit couvrir le visage et les mains. C'est la majorité. Et une minorité qui ont dit, non, le verset, il fait exception des mains et du visage. Faites tomber leur voile, il n'y a pas le visage et les mains qui sont compris dedans. Et ça, il y a Cheikh Al-Albani qui a exposé cette position également. La plupart, voire la totalité, wallahu a'lam, des savants du Hijaz, avec des preuves, des grosses preuves, alors on n'est pas là pour convaincre ou pas convaincre, mais on nous a posé la question, de faire un petit détail, la plupart des savants du Hijaz, se basant sur des preuves solides, disent qu'on doit couvrir les mains et le visage. D'ailleurs, pour celles qui veulent pratiquer la sunna, même si elles ne considèrent pas que c'est obligatoire, il faut savoir que les femmes du prophète avaient le visage couvert. Alors, ceux qui disent que ça n'existe pas dans l'islam, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, Inch'Allah Ta'ala, sanaktafi bihad al-qadr. Aujourd'hui, nous allons... Wafikum barakallah, wafikum barakallah. Oui, le sitar en France... Allah al-musta'an. Alors, on a une question ici. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne se moque sérieusement d'une autre, mais qui n'a pas de rapport forcément avec la religion, par rapport à la personne, tombe. C'est considéré comme la mécréance? Non, c'est pas considéré comme la mécréance. Il faut que ça ait un rapport avec la religion. Pour que ce soit de la mécréance, l'acte annulatoire, il faut que ça ait un rapport avec la religion. Si, par exemple, je sors de chez moi, je glisse sur une peau de banane, qu'Allah nous en préserve, quelqu'un se moque, s'éclate de rire, etc., ça ne sera pas de... Si je ne porte pas le sitar à cause des lunettes, est-ce que j'ai commis un péché? On veut dire quoi à cause des lunettes? Ah oui, si je ne porte pas le sitar, vous pouvez porter dans ce cas le niqab. C'est plutôt le contraire. Si je ne porte pas le niqab avec les lunettes, à cause des lunettes, eh ben vous pouvez porter le sitar avec les lunettes, comme le font certaines sœurs. Mais on sera puni vu que c'est méchant de se moquer quand même. Bien sûr, quelqu'un qui se moque, c'est un péché, même si ça n'a rien à voir avec la religion. On ne se moque pas des gens. Bien sûr que c'est péché, on ne se moque pas des gens. Non, ça marche le niqab. Wafikum barakallah. Salam alaikum. J'aimerais beaucoup porter le sitar, mais en France, c'est compliqué. Comment procéder? Jazakumullahu khayran. Alors, ça fait plaisir, hein, mashallah. Ça fait plaisir. C'est une bonne initiative. Wafikum barakallah. Porter le sitar en France. Alors, en France, moi, ce que je vous conseille, c'est pour le moment, hein, pour le moment, c'est si vous décidez de porter le sitar, vous le portez sous forme de masque noir. On vous dira rien. Hein. On connaît des sœurs qui font ça, mettent un masque noir. Et au contraire, maintenant, voilà, c'est tant mieux, le masque. Et de sortir le moins possible jusqu'à ce que vous émigriez, jusqu'à ce que Yacoum, jusqu'à ce que vous fassiez l'émigration, de sortir le moins possible, c'est malheureux, mais parce que les savants ont donné deux solutions. Ou bien en France, ne pas mettre le niqab, mais ne sortir qu'en cas de darora, hein. Faut pas se promener, faire coucou à la police, etc. Ou bien le masque, oui. Le masque, mashallah. Ou bien, faut partir. Il y a des savants, il y a une divergence. Hein. Il y a des savants, ils ont dit non, là c'est trop. La femme qui porte le sitar, elle doit partir. Elle ne peut plus rester en France. Et il y en a d'autres, ils ont dit bon, ben voilà, vous êtes bloqué, vous êtes là-bas, vous mettez le masque, ou alors faut éviter de sortir beaucoup, les vitres teintées dans la voiture, voilà, tout pour éviter, quoi. Éviter. Après, notre étudiante, je n'ai pas bien compris l'histoire des lunettes avec le sitar. Vous m'excusez, Niqab, j'ai pas compris. Je suis vraiment désolé. La police ne contrôle pas beaucoup, enfin, dans les banlieues. Ah bon? Tant mieux, hein, parce que moi, j'avais vraiment compris que c'était. Bon, peut-être que c'est plus le cas, mais pendant un moment, c'était la chasse aux sœurs. Hein. Est-ce qu'il y a une différence entre le sitar et le niqab? Oui, il y a une différence entre les deux. Il y en a un, c'est où on voit les yeux. Il y a des trous pour voir les yeux. Et il y en a un autre, c'est tout noir. C'est tout le visage qui est couvert. Alors, il y a des divergences. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Pour cela, je voulais vous informer. Alors, c'est le sital qui est dur avec les lunettes. Excusez-moi. Pour cela, je voulais vous informer. Le niqab, ça fonctionne, mais les lunettes en dessous du sital, les lunettes en dessous du sitar. Bien sûr, c'est difficile. Oui, je comprends. Hein. Je comprends et je suis d'avis que c'est obligatoire, mais que je ne le mets pas dû aux lunettes. Ai-je un péché à fois, moi, j'ai eu une amende. Mon père a dû venir. Oh, Allah Ta'ala, il nous dit, craignez Allah comme vous le pouvez. Allah ne charge pas plus une âme qu'elle ne peut. Si vraiment vous avez des problèmes de lunettes, niqab, etc., mettez le masque. Mettez le masque, ça couvre jusqu'aux yeux. Ça, essayez de baisser au maximum en haut. Comme ça, on voit pas vos yeux quand vous marchez et vous voyez tout ce qui se passe. Et en même temps, vous n'avez pas de lunettes. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des savants qui disent quand vraiment vraiment, vous êtes dans une situation grave. Les amendes, les tribunaux, n'écoutez pas comme certains ont fait des vidéos. Il y a des sœurs qui ont fait des vidéos. Retirez le pas, on vous attend, la police, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. J'ai vu une vidéo comme ça à l'époque, j'avais répliqué directement. J'avais répliqué directement, j'avais dit, il faut craindre Allah. Dans la religion, on n'emmène pas nos frères et nos sœurs en difficulté. Les savants disent, Ad-darura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les cas de force majeure, on a le droit d'outrepasser la législation. Vous comprenez? Dans les cas de force majeure, on a le droit d'outrepasser la législation. C'est une règle de fondement, dans les fondements. Par exemple, si je suis en train de mourir, eh ben, j'ai le droit de manger du porc. Si je suis en train de mourir, j'ai le droit de manger du porc. Donc les savants disent, si par exemple ils vont venir chez toi, ils vont tout te prendre et ils vont t'attacher, ils vont te mettre en prison, et il te demande de payer des intérêts, eh ben, tu payeras les intérêts. Et j'ai déjà posé la question aux gens de science sur ça. Donc le sitar, si tu sais que tu vas finir en prison, au commissariat, on sait comment ça se passe, wa iyadun billah, alors il y a des savants qui disent que tu as le droit de ne pas porter le niqab ou le sitar. Mais essayez toujours de jouer comme ça avec leur loi de Koufa. On met le masque, quand ils sont là, on le baisse. Par exemple, hein, dès qu'ils partent, on le remet. Je sais que ce n'est pas un jeu, mais voilà. Amin, amin, amin. Amin, Cheikh Ziyad, amin. Wallahu al-musta'an. C'est pour ça, franchement, je ne suis pas là pour vous faire des polémiques ou pour vous casser la tête, mais... Sauvez votre peau, ne restez pas là-bas. Ne restez pas en France. Parce que c'est vraiment, Amine, c'est pas moi qui vais vous. Ça fera presque entre 4 et 5 ans que j'ai quitté la, que nous avons quitté la France. C'est pas moi qui va vous dire l'intensité, la France, etc. Vous savez mieux que moi. Mais en Angleterre, qu'est-ce qui est permis? Le sitar, le niqab? À Birmingham, il n'y a que ça. Les femmes, elles travaillent avec le niqab, c'est normal. Le niqab, dans les écoles, dans les publics, dans... moi, j'habite dans une rue, dans un quartier. Je ne sais pas, je dois croiser 100 niqab par jour. C'est normal, elles sont toutes en niqab, en sitar ici. Et en hijab. Une ou deux, de temps en temps, des femmes qui n'ont pas du tout le hijab. La barbe, c'est même les policiers, partout, tout le monde. C'est normal. Ici, c'est interdit d'insulter la religion en Angleterre. Ils ont peur, hein. Même le raciste, il réfléchit à deux fois parce qu'ici, tu n'as pas le droit d'insulter la religion de quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Alors, je ne suis pas en train de vous vanter les mérites, mais c'est mieux que d'être en France. Hein. Tu n'as pas le droit ici. Si tu portes plainte, il est mal. Respect de la religion. Tu as le droit de mettre du Qur'an dehors, de faire darwa. Si tu veux, tu prends un micro avec une grosse bave dehors, devant le centre commercial, avec les Anglais qui passent. Et tu dis ce que tu veux. Revenez à Allah. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Vous allez au centre commercial, un des plus prisés hein, de Birmingham, un grand centre commercial. Hein. Rien à voir avec les mini-centres commerciaux Minap de France. Hein. Il y a toutes les marques. Comment il s'appelle un magasin Primark que tout le monde aime bien. Ici, il y a 4 étages de Primark. 4 étages. Les sœurs, les vendeuses, elles sont en hijab. Alors, le fait que ce soit une terre de mécréance et que si on y meurt, on meurt dans une terre de mécréance. On va vous donner l'exemple que donnent les savants. Alors, il est vrai que les savants ne sont pas tous de cet avis-là, mais il y a des grands savants, et même parmi les anciens, on a déjà expliqué ça. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète, ils ont bien émigré avant d'émigrer à Médine, de Mecca, lorsqu'ils étaient persécutés. Ils ont bien émigré en Abyssinie, Al-Habasha. On est bien d'accord. Personne ne peut dire le contraire. Ça a été authentifié. Les compagnons du prophète ont émigré en Abyssinie. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient persécutés à la Mecque par les associateurs, les mécréants. Ils ont été reçus là-bas, ils sont restés là-bas. jusqu'à l'ouverture, la hijra à Médine, etc. Mais il y a des compagnons qui sont morts en Abyssinie. Ces compagnons, on n'a pas dit que c'était des mécréants, qui sont morts dans le bled Kouf, etc. Parce que pour eux, par rapport à leur situation, c'était légiféré d'émigrer dans un bled de chrétiens où ils ne seraient pas persécutés. Donc les savants disent, et ça fait partie des fondements de la hijra. Je ne fais pas de la pub, hein. Je ne fais pas de la pub. Moi, je vous dis ce qu'il en est dans la législation. Qal Allah, qal Rasoul. Vous avez Shir al-Fawzan, vous avez Shir Salih al-Shir. Plein de grands savants qui disent, et ensuite, tous les grands savants, parmi les anciens dans les livres, conditions de la hijra, piliers de la hijra, qui disent, si tu arrives à pratiquer ta religion dans un pays, même s'il est pays de kufr, alors c'est permis d'y rester. Alors il est permis de rester dans ce pays. Mais si tu ne peux pas pratiquer, alors c'est obligatoire de faire la hijra. Et le pays où tu peux pratiquer, il est permis de rester, de vivre là-bas, mais il est préférable de faire la hijra dans un pays musulman. Nous, on ne compte pas faire notre vie en Angleterre. On sait que c'est préférable. On souhaite partir, on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir en Angleterre. Mais on aimerait bien partir dans un pays musulman. Mais on sait que là, elle n'est pas obligatoire pour nous la hijra. On est dans un pays où on peut pratiquer, ce n'est pas obligatoire. Mais au niveau de l'anglais, on peut s'en sortir, même si notre anglais, c'est une catastrophe. Écoutez, ça fait entre 4 et 5 ans que je suis là, j'ai dû apprendre 5-6 mots en anglais. Et je me débrouille, hein, Google, je fais des phrases cassées. Moi, je n'ai pas encore fini avec la langue arabe, donc je n'ai pas le temps d'apprendre l'anglais. Hein. Tout le monde le sait. Et par contre, là où j'habite, les gens parlent arabe. Hein. Les gens parlent arabe, hein. C'est des quartiers musulmans, ça parle arabe. Y a-t-il des écoles musulmanes là-bas, non mixtes pour enfants, ados? Alors, je vais vous dire franchement, on parlera de ça dans un autre cours, Inch'Allah Ta'ala, si vous voulez, dans les questions-réponses. Parce que là, le temps est écoulé, mais je vais vous parler franchement. Pour ceux qui ont des petits-enfants, tout ça et tout, les écoles, etc. Oui, si on choisit le moins pire, ouais. Mais l'Angleterre, ça reste très dangereux pour l'éducation des enfants quand même. Ça reste très dangereux parce qu'ils sont tellement gentils. Alors eux, c'est le contraire. Ils sont tellement gentils avec les musulmans. Mettez vos enfants à l'école, ne vous inquiétez pas, on respecte. Que tout le monde met ses enfants à l'école, mais les enfants, ils finissent petit anglais. De rien, c'est normal. Donc, c'est dangereux également en Angleterre parce que ils sont tellement gentils que tu peux tomber. Leur gentillesse, elle peut te prendre. De rien, c'est normal. Leur gentillesse, elle peut te prendre. Voilà. C'est pour ça que la plupart de ceux qui ont des petits enfants en Angleterre, ils vous diront ouais, c'est trop dur, Allah musta'an. Oui, j'habite en Angleterre, Sheikh Ziyad, tu savais pas? Mashallah, tu savais pas, Sheikh Ziyad? Tu croyais que j'étais en haut de la montagne de l'Zaïr? Oui, c'est toujours mieux que la France pour les enfants. Alors là, il n'y a pas photo. Je vous le dis, hein, l'Angleterre et la France, il n'y a pas photo. Oh là 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 là. Si je vous dis, on sort dehors, les gens nous disent bonjour. On ne les connaît même pas. Hello, 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 hello. Sorry, sorry, sorry. Rien à voir avec les Français. Hein. Rien à voir. Inch'Allah Ta'ala, nous allons conclure ce cours. Vous nous excusez, hein. Oui, ils sont connus en France, hein, les méchants angry. Hein. Ils sont connus, même ici. Hein. Ah, vous êtes français, mais comment ça se fait que vous souriez, vous rigolez? Vous êtes gentil, frère, inshallah. Désolé pour Allahu musta'an. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.